Family Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net. Money Time.
Bonsoir et bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time, émission spéciale, le sport d'hiver. Donc au programme, on parle de biathlon, de ski alpin, on suit les performances des athlètes français et un peu plus en fin d'émission s'il reste du temps. Alors, la Coupe du Monde de biathlon 2020-2021, une édition qui, marquée par le Covid, les biathlètes sont dans leur bulle. Antoine, si tu peux baisser un tout petit peu la musique. Les biathlètes sont dans leur bulle et les étapes de Coupe du Monde sont doublées. On a vu ça à Contiolati, à Hochfilzen. Ce week-end, ça sera à Nové Mesto. Hein. La bulle biathlon se porte bien. Tous les athlètes sont là, à la différence d'autres sports. Hein. On pense au rugby, hein, le gros flop du Covid pour ce sport. En tout cas, les biathlètes sont là. Et cette année, un nouveau duel depuis le départ de Fourcade. Eh bien, le duel qui nous intéresse, c'est le duel norvégien entre Johannes Bø et Sturm Holm Lægreid.
Bonjour à tous déjà.
Pardon, on n'a pas présenté nos chroniqueurs, évidemment, et on va un peu trop vite en besogne. Oui, pour parler de ça autour de la table, Charles. Salut Charles.
Salut à toi Matt, salut à tous.
Et puis Jean-Marc.
Salut à tous. Je vois que ça te passionne tellement le biathlon que t'es à fond.
Je fais ça tout seul, hein. Salut Jean-Marc. Et puis notre réalisateur qui met la musique trop fort, c'est Antoine.
Salut tout le monde.
Bon, allez, cette fois-ci, on y va avec le duel.
Bah ouais.
Bø Lægreid. Et on attendait un autre adversaire, je pense à Jacquelin.
Oui, on peut penser à Jacquelin ou à Quentin Firmaillet qui l'avait annoncé en début de saison, qui voulait se battre pour le classement général. Mais finalement, c'est la grosse surprise. C'est le jeune norvégien Sturla Holm Lægreid qui nous fait une saison exceptionnelle. Ouais, seulement 24 ans, c'est assez jeune dans le biathlon.
24 ans et déjà 4 victoires en Coupe du Monde et 2 titres mondiaux.
2 titres mondiaux, effectivement, on en reparlera tout à l'heure. Mais il a commencé très très fort avec la première étape à Kontiolahti, première épreuve, l'individuel, il le remporte.
20 sur 20,
on était très surpris. Et ce 20 sur 20 qui l'enchaînera avec toujours des très bons résultats au tir au fil de la saison. Il a un pourcentage exceptionnel, au-dessus plus de quasiment 95% de réussite au tir, c'est quand même incroyable.
93%, 90% au debout, 97% sur le coucher.
Ouais, c'est ça, il a des statistiques phénoménales, et c'est ce qui lui permet d'ailleurs d'être juste derrière Johannes Bø.
Ouais, parce que Jean-Marc, c'est pas le plus rapide sur les skis. Hein.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire, c'est Sturla Holm Lægreid est un tireur d'élite.
Un sniper.
Et je suis sûr que tu fous la cible à 1 km, il la touche pareil. Ce mec-là a un sang-froid. Et puis, c'est un garçon qui a été adoubé par Martin Fourcade. Il a dit, celui-là, c'est en gros, entre guillemets, hein, c'est mon successeur.
Oui. Bah, il a à peu près les mêmes caractéristiques. Il est assez longiligne. Il a un peu le même style que Martin Fourcade en soi. Donc, c'est assez logique. Mm-hmm.
Alors, c'est pas le plus rapide en ski, je suis d'accord avec toi, mais il est quand même relativement rapide.
Et oui, il est pas lent, hein, parce que sinon, on voit comment les temps de Johannes Bø, il est pas non plus à la ramasse.
Parce que, ok, sur de l'individuel, tu peux être le moins rapide, enfin, entre guillemets, faut une marche quand même,
et oui, l'emporter, puisque... À 20 sur 20, oui, si tes concurrents sont à 18, voilà, tu leur as mangé 2 minutes.
Tu perdras pas de minutes, mais il a gagné déjà en sprint ou en poursuite, je sais plus.
Oui, il gagnait sur Mastart.
Ou sur Mastart, là, il faut de la vitesse à ski.
Il a gagné le sprint à Hochfilzen,
c'est ça,
le deuxième.
C'est ce qui me semblait. Donc, et en fait, il est ultra complet. Il est ultra complet, il doute pas. Il a très peu de... Il y a peut-être une course où il est passé au travers, ouais, enfin, une ou deux courses. Enfin.
Toujours placé, en tous les cas, pas à la ramasse hein, ouais.
Sur Johannes B.
Sur ses moins bons résultats, ce qui fait que c'est un candidat sérieux pour le gros globe, sachant qu'il faudra en lui enlever
quatre
moins bons résultats. Ouais.
C'est quand
mais
même...
si t'enlèves les 4, je crois qu'il est devant.
Mais je crois que là, ouais, actuellement,
il doit
avoir
une trentaine de points d'avance.
Mais c'est pas énorme, hein, mais là, ça, il reste que 3 étapes de Coupe du Monde.
Bah là, il faut qu'il passe au travers quasiment de... Enfin, faut pas qu'il passe plus de la moitié de... Sur les 7 courses qui restent, il a pas le droit d'en rater plus de 3.
En gros, c'est ça. Il a 32 points de retard.
32 de retard,
peut,
mais
pardon. Ça se comble rapidement. Hein.
C'est ça.
Bah oui, donc Johannes Bö qui en plus là actuellement est très rapide sur les skis. C'est ce qui d'ailleurs lui fait qu'il est encore très bien placé et qu'il gagne. Mais sinon sur le tir, il est pas du tout dans le coup. Hein, parce que sinon il raflerait tout. Alors que finalement en début de saison, on prédisait assez logiquement une victoire au classement général assez facile de Johannes Bö. Hein, quand on a vu les dernières avec le nombre de manches qu'il a loupé parce qu'il a eu son enfant. C'est quand même incroyable. Et cette année, bah, finalement, la Ugrid, il est là et il ne se laisse pas faire.
Et c'est ce que j'allais te dire. C'est exactement ça. On l'a vu au championnat du monde, on en parlera après. Johannes Bö, il n'est pas infaillible. Et il n'est pas infaillible, d'autant qu'il est relativement rapide au ski. Ça reste un des plus rapides. Mais peut-être pas aussi dominateur qu'avant.
Bah, c'est surtout qu'on lui prédisait 5 gros globes quasiment de rang après Fourcade. C'était lui qui devait prendre la relève du biathlon. Et là, bon, certes, 2 globes, mais le troisième, il va falloir qu'il aille le chercher. Et pour les années prochaines, le niveau risque de s'équilibrer entre les deux. Et d'ici là, on pourra voir un nouveau arrivé. Sait-on jamais, bah, oui, peut-être un Français.
On espère pour nous.
Français. Oui, mais oui, parce qu'on va pas, tu vas pas déjà enterrer Émilien Jacquelin.
Non,
j'espère pas.
Il un peu. Et même Quentin Furmaillet. Hein,
mais bien sûr.
Et tout. On a encore des chances françaises. Mais c'est vrai que après, il faut aussi se rendre compte que Johannes Bö sur les skis, il est quand même largement devant tout le monde encore. Hein. Et
il est devant. Il est. Mais alors, on l'a vu au championnat du monde, il n'était pas tant que ça en avance sur certains.
Il domine le sprint.
Oui.
Pour l'instant.
Oui, il domine parce que le sprint, parce qu'il a une très grande vitesse et que du coup, il peut l'arriver.
Mais il est pas.
Et avec une distance courte. Et avec 10 balles à tirer, s'il en met 9, il a encore un peu de marge.
Bah oui, largement. Donc,
il a moins de marge. Moi, il a moins de marge. Mais avant, on se disait un sprint. Il faisait 8, il gagnait quand même avec 15 secondes d'avance. Là, c'est plus le cas.
Bah, alors déjà, oui, aussi, c'est vrai que ses adversaires aussi vont assez vite hein, en soi. Mais c'est surtout que je trouve que cette année, il lâche plus de balles qu'il n'en lâchait l'année dernière.
Et, il est à 85% au tir. Ouais. Donc, ça fait 8 balles et demi sur 10, peu comme Ekoff d'ailleurs, hein, chez les femmes. Hein, c'est un petit peu les mêmes stats. 80 au debout, 89 au coucher. On a dit l'Argrid 93%, 90 debout, 97 couché. C'est quasiment 9,7 balles sur 10 dedans. Seul Simon Eder fait mieux cette année. Simon Eder, c'est 95%, 92 au debout, 97 au coucher.
Mais par rapport au fait qu'il soit moins en réussite avec sa carabine Johannes Bö, il y a une explication. Et l'explication est en partie française, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui. Siegfried Mazet lui a proposé par rapport à la tenue de sa carabine et de l'instabilité que ça pouvait avoir sur les deux bouts, de changer sa position et même de changer de carabine. Mmh. De faire une carabine qui était plus adaptée, sauf que ça n'a pas du tout marché comme il voulait. Et du coup, il vient de repasser à sa carabine juste avant les mondiaux. C'est pour ça qu'il y avait aussi un décalage. Je pense qu'une fois restabilisé avec sa carabine, il risque d'être plus performant.
C'est ça, mais ça l'a déstabilisé cette année. Et il a lâché plus facilement des balles, sur des couchés ou sur des debout. Parce qu'en soi, il était assez régulier. Il n'y a pas un tir finalement où il était vraiment bon et l'autre, il était moins bon. C'est que sur les deux, bah, finalement, il y a des courses où c'est assez inexplicable. Et là où peut-être que l'année prochaine, s'il arrive à retrouver un tir où il est un peu moins, il en met une de plus par exemple que par exemple la cette année, là
il redeviendra très fort.
Il redeviendra très fort. Or, sauf si la Hugrid évolue un peu sur son ski.
C'est ce que j'allais dire en gros. C'est que du coup, il a donné la porte, il a entrouvert la porte avec cette histoire de carabine. J'incrimine pas Siegfried Mazé, hein. Il y avait une raison pour laquelle ils l'ont fait. Bon, ça marche pas, ils vont partir sur d'autres expériences. Mais du coup, voilà, c'est ça. Il a entrouvert la porte à Sturmla Hagrid. Ce qui fait que ça sera plus la même position qu'avant le début de saison où il était tout seul, où il avait le temps de faire des expériences. Là, il n'aura pas le temps parce que derrière, Hagrid, il va être là. Et il est tout le temps là. Et puis Hagrid, on ne l'attendait pas du tout. Hein. Il n'est pas jeune, Hagrid. Enfin, il est relativement jeune. Il a
24
ans, c'est ça.
Mais il explose,
cette année. Il est vraiment sorti du bois.
C'est
donc,
ça.
Tu vois, il n'était même pas...
parce qu'on attendait plus d'aller.
Voilà.
Ouais, oui, c'est ça, on attendait.
Qui est là, hein, quand même.
Ah bah, bon, il est troisième au classement général.
Une victoire cette année, troisième au général, toujours placé.
Toujours placé. Et des podiums sur les championnats du monde. Non, Dalle, il est bien présent, mais c'est vrai qu'on attendait plus un Dalle qu'on voyait Dalle, déjà l'année dernière.
Un Christiansen, voir un Tarjebø, hein, on va pas l'enterrer tout de suite.
Mais Tarjebø, cette année, c'est vrai qu'il est beaucoup moins fort que l'année dernière.
Je pense qu'il est en train de vieillir. Faut pas oublier qu'il est un petit peu plus vieux, je crois. Il doit avoir un an de plus que Martin Fourcade. Donc, on peut comprendre que la retraite approche. Mais bon. S'il a l'endurance d'un Björn Dahlen, parce que c'est là que je voulais en arriver finalement avec Sturla Holmlégrid, c'est que c'est peut-être le vrai héritier, lui, de Ole Einar Björn Dahlen.
Ouais, on en parle, effectivement.
Bah, c'est vrai que Jonas Bøhl, il est encore un peu, il n'est pas non plus tout vieux, donc il ne faut pas le laisser
à... Non, mais bon, après. Alors, mais... c'est intéressant parce que du coup, ça devient vraiment une course très norvégienne. Oui.
C'est vrai, quand on se rend compte que sur les 5 premiers au classement général, il y a 4 Norvégiens, on a l'impression que les Français, maintenant qu'il n'y a plus Fourcade, va falloir essayer d'être un peu plus présent. Parce que
c'est sur la régularité.
Parce que cette saison, j'ai regardé, c'est 62 podiums pour les Norvégiens et seulement 27 pour la France, qui est quand même deuxième en classement des nations des podiums. Donc vraiment, il y a une surpuissance des Norvégiens. Et on attend la France un peu plus présente.
Et en début de saison, la Suède était même mieux placée que la France.
Voilà, on va parler de ceux qui poussent derrière. Donc derrière ces Norvégiens, on a les Français. Donc on va en parler principalement que d'Emilien. Pas de victoire en Coupe du Monde cette année. Et de Quentin Fillon-Maillet. Non, pas encore, il reste 7 courses, bien sûr. Hein. Et de Quentin qui lui claque la poursuite de Schwilzen.
Ouais, c'est ça, une bonne victoire.
Sa seule victoire. On n'oublie pas les Suédois, hein, Martin Ponsiluoma et Sébastien Samuelsson, qui eux aussi ont connu la victoire cette année.
J'allais surtout parler de ces deux Suédois, Ponsiluoma et Samuelsson, qui ont fait un super début de saison. Et qui ont été plutôt bons, surtout pour les deux d'ailleurs, aux mondiaux. Donc,
des médailles.
Ils seront là en fin de saison.
Mais c'est vrai que la Suède, là, Samuelsson, ça fait longtemps qu'on le voit sur la Coupe du Monde, quand même. Hein, il est encore jeune. Hein. Il a que 24 ans, 23 ans. Ponsiluoma, c'est pareil. Alors, Ponsiluoma, c'est vrai qu'on le voyait très. Il est quand même très rapide sur les skis, mais c'est vrai qu'il est vu qu'avec son niveau de tir, qui était un peu moyen, on le voyait moins l'année dernière et tout. Mais là, c'est vrai que cette année, les Suédois, ils ont une très bonne équipe, une très bonne nation.
Et ce que j'allais dire, on le voit par équipe.
C'est ça, hein, et même sur les relais et tout, ils sont présents avec Nelin, Pepe Femling et tout. Même si sur certains relais, ceux qui sont un peu moins bons comme Femling, parfois ils peuvent craquer. Mais ils ont une très bonne équipe et ça peut être une très bonne révélation, surtout pour l'année prochaine.
Et surtout, en relais mix avec les Søreberg.
Ah bah en plus avec les Søreberg.
Ouais, donc 4 Norvégiens, 2 Français, 2 Suédois. On rajoute Lucas Hofer, l'Italien, et Arne Pfeiffer, l'Allemand. On a le top 10 mondial.
Ouais.
Ouais, bon, les Allemands, on va pas beaucoup en parler, mais les Allemands cette année, c'est quand même assez assez catastrophique.
C'est ça,
hein. Ils sont nulle part.
Bénédicte Doll, jamais
au travers. Pas présent. Il y a eu que Arne Pfeiffer qui était présent au championnat du monde. Hein.
Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il leur manque de la glisse? Est-ce que c'est techniquement qu'ils sont pas à la hauteur?
Moi, je te dirais qu'il manque des leaders, c'est tout.
Oui, il manque des leaders. Physiquement, je pense que c'est aussi équipe un peu moins fort. Puis même Pfeiffer, il se fait quand même commencer à se faire vieux. Hein,
ce que j'allais dire, c'est que quand tu vois que le leader, c'est Pfeiffer qui
a l'âge de Fourcade. Hein.
Oh oui, oui, même plus vieux,
même plus
je crois.
Vieux, peut-être, ouais.
Ah oui, je donnerais 2 ans de plus.
Il a 33 ans.
Ouais.
Ah non, alors du coup, c'est à peu près le même âge.
Ouais, ouais, c'était la même génération, mais ils n'ont pas renouvelé. Hein. Je me souviens qu'encore il y a 1 ou 2 ans, on attendait un Philippe Navrat qui était très rapide sur les skis, mais qui court en IBU Cup.
Donc, disparu comme il y avait eu comment qu'il s'appelait lui,
Horn,
Horn par exemple,
Horn qui est, ouais, qui est pas là, Kuhn aussi qui est
Kuhn, voilà, je Kuhn, pensais à lui
qui était très rapide l'année dernière qu'on voyait bien et qui cette année a disparu, hein.
Et chez les féminines c'est pareil, hein,
bon, Preuss cette année on va y arriver,
oui, j'allais dire Francisca Preuss, c'est tout. Mais comment qu'elle s'appelle, celle qui est ultra rapide en ski
Denise Herrmann.
Denise Herrmann, bah, elle est moins rapide.
Déjà, elle est moins rapide que l'année dernière. Et en plus, elle commence à vieillir et tout. C'est une explication. Mais elle n'est pas non plus sur le tir, elle est moins présente. Donc forcément.
Parce que logiquement, c'était elle qui devait remplacer Dallmayr, quoi. Et c'est pas le cas. Donc,
mais Dallmayr, en plus, c'est dommage parce qu'elle était jeune en soi.
Oui, après, c'est des choix de vie.
On respecte totalement. Et après, ouais, il y a Yannina Itich aussi qui a fait 2-3 trucs, mais après sinon c'est vrai que l'équipe d'Allemagne en ce moment, cette année, alors je sais pas si c'est une année de transition avec des jeunes qu'on ne connaît pas et qui vont arriver l'année prochaine, mais c'est vrai que les Allemands, ça peut être très dur.
En fait. Et la dernière équipe qu'on attend et qu'on recherche désespérément au grand dam de leur président tsariste, les Russes.
Il y a la retraite de Chipouline,
oui, mais alors
qui
là,
était un peu la tête de gondole. On a eu Loginov qui a fait des résultats aux derniers mondiaux, mais cette année aux abonnés absents.
Ouais, il est pas là, ils sont pas là, les Russes, ils sont complètement absents.
Alors il y a Eliseev.
Il va prendre une petite place, une troisième ou des fleurs. Mais ils sont pas là, les Russes. Ils sont pas du tout là. Ils ont sombré.
Ils ont une victoire sur l'individuel avec Loginov en Tols. Sinon, c'est sur les relais où ils ont fait quelques résultats.
Ils ont fait des résultats aussi parce que des équipes comme la France étaient passées au travers.
Oui, c'est ça. Et totalement.
Ils sont plus là, les Russes. Donc, pour moi, la grande absence, c'est les Allemands et les Russes. Où sont-ils ?
Portés disparus.
C'est ça. Bon, alors en plus, si on rajoute à ça que Martin Fourcade devrait gagner un autre titre olympique. Je ne sais plus quel est le russe en cause.
C'est un russe pas très connu.
Et du coup, il sera encore moins connu parce que du coup, il va perdre son titre. Mais tout ça pour dire que, bon, même si ça nous fait plaisir parce que ça lui permettra de rejoindre au nombre de titres Björn Dahlen, mais au-delà de ça, c'est pour te dire que les Russes, ils sont clairement à la ramasse, les Garanichev et tout ça.
Pour en terminer sur la Coupe du Monde, le favori, alors, Bö ou Lagrid?
J'ai envie de parier sur Lagrid.
J'aimerais bien dire Lagrid, mais je pense que Younes Bö reste encore...
C'est bien, comme ça, chacun...
Si on dit... Allez, 7 courses, 3 sprints, 3 poursuites, 1 mass start, ça fait beaucoup de balles à tirer, encore. Lagrid.
On verra à la fin de la saison.
Bon, on verra. Mais je souhaite aucun mal à Johannes.
Vrai qu'à Younes Bö, ça fait un moment qu'on le voit, donc forcément, on a envie un peu de surnommer.
C'est quelqu'un qu'on adore en plus.
Bon, alors la Coupe du Monde, c'est une épreuve de fond, mais on a eu les championnats du monde. Donc, les championnats du monde à Pokljuka en Slovénie. Et là, le bilan français est plutôt sympathique. Hein.
Il est très correct, il est très bon même. Enfin,
c'est 7 médailles, je crois.
Ça avait commencé par l'individuel et la victoire de Ponsiluma.
Ponsiluma, surprise un peu quand même, hein, parce qu'on attendait surtout Younes Bö.
Exactement.
Et là, finalement, Martin Ponsiluma qui nous sort un 10 sur 10, sorti un peu de nulle part.
20 sur 20.
Et puis.
À l'individuel.
Il a fait un 20 sur 20 ?
À l'individuel, c'est pas sur 10, c'est sur 20. Hein.
Oui, mais c'était sur le sprint. Là, c'était sur le sprint.
Ponsiluma,
c'est sur le sprint. Ouais. Et donc, c'est pour ça, 10 sur 10 un peu et tout.
Ponsiluma qui s'impose devant 2 Français.
C'est ce que j'allais dire. Du coup, on s'emballe, hein, puisque le deuxième, c'est...
Simon Détieux.
Simon Détieux, qui sort du bois.
Première médaille mondiale pour lui.
Ah ben bah on l'attendait, hein, parce que ça faisait un petit moment qu'il était là et il la mérite, parce qu'en soi c'est un bon travailleur.
Je crois que Mathieu l'avait enterré 6 pieds sous terre, il y croyait pas une seconde.
Cette année, Simon Détieux, il est présent, mais il a pas fait de podium.
Et puis Simon, il a besoin de très très bien tirer parce qu'il a un niveau de ski qui est correct, mais c'est quand même loin d'être le plus rapide par rapport à Quentin, Emilien ou même Fabien Claude. Et du coup, lui, pour exister, il a vraiment besoin d'un 10 sur 10. Et du coup, ça, du sprint, c'est pour ça qu'on l'a vu sortir. Il est capable de sortir un 10 sur 10 et d'aller comme c'est un format court en distance, d'aller relativement vite.
Deuxième du sprint, il en avait les larmes aux yeux.
Ah ben, je le comprends. Première médaille mondiale en argent, comme ça et tout.
Quasiment en fin de carrière.
Ah, pas en fin de carrière non plus. Il a encore quelques années. Mais tu l'enterres trop vite. Moi, c'est mon biathlète préféré, donc attention. Surtout en français. Mais c'est une belle récompense pour lui. Et surtout avec un beau 10 sur 10, parce que ça faisait surtout un petit moment qu'il n'arrivait pas à mettre cette dernière balle, souvent un peu qui bascule, qui fait basculer un peu une course dans l'exceptionnel un peu. Hein. Et il s'est bien battu, et surtout parce que quand il ressort du deuxième tir, il est derrière Emilien Jacquelin. Et finalement, il se bat et il va le chercher sur la ligne un peu. Je crois qu'il y a une seconde à peu près d'écart avec Jacquelin. Il finit troisième, on va en parler.
Oui. Une seconde ou un dixième.
Un beau sprint.
Moi, je sais plus, bref.
Un beau sprint avec deux breloques pour les Français.
Et, oui, deux...
et les Norges, ils sont que 4 et 5.
Avec Beu et
Dalleux.
Et on sait l'importance de bien figurer au sprint parce que la poursuite, c'est une course à handicap.
Exactement.
Donc là, on avait deux Français bien placés
Et même, je te dirais trois, puisque Quentin était
top 10, 7.
6-7. Les Français étaient relativement bien placés. Le moins bien classé étant Guigonin, qui était 21e. Donc
on a fait une belle course d'ensemble des Français. Hein, c'est ça. Et là, on pouvait s'en réjouir.
Et sur la poursuite, les deux chances françaises au départ d'Etieu et Jacquelin, il y en a une qui claque le titre et là on peut en parler. Il a été formidable, Emilien Jacquelin, sur la poursuite avec un dernier tir phénoménal.
C'était le champion du monde en titre et il tenait à garder son titre et c'est là qu'on voit que c'est vraiment son épreuve favorite, hein, c'est là où il est le plus doué.
Il avait le globe. Hein. Il avait le petit globe de la spécialité l'année dernière.
C'est ce que je viens de te dire.
Double champion du monde.
Oui,
les deux seules victoires en carrière, hein, c'est deux titres de champion du monde pour lui.
Comme quoi.
Et voilà. Et du coup, et comme tu dis, il a eu un dernier tir ultra rapide. Hein. Je n'ai pas le temps de tir, mais c'est extrêmement rapide.
Il les a enchaînés. C'est incroyable.
Il gagne largement.
Hein, parce qu'en soi, il fait le 20 sur 20, je crois. Ils sont que deux à faire le 20 sur 20 sur la poursuite. Donc il a fait vraiment une course, mais parfaite, dans long, en large et en travers. Il a fait tout ce qu'il fallait pour conserver son titre. C'est Samuelsson qui est juste derrière lui qui fait aussi le 20 sur 20. Il réalise une course
en d'anthologie.
C'est ça. Et avec un tir en plus phénoménal. La pression, elle était où là, hein? C'est incroyable. Hein? Lucky Luke, il les a. Franchement, ça m'a vraiment marqué. Hein? Surtout parce que c'était pour le conserver, quoi, en plus, son titre. Hein?
Et là, du coup, première semaine vraiment très bonne pour les garçons. Bon, dans le milieu, il y avait eu un relais mixte où la France avait explosé à cause de Julia qui avait craqué.
Non, c'était Anaïs.
Anaïs, pardon.
C'était Anaïs Chevalier.
Ah oui, exact, excuse-moi. Anaïs qui avait fait un beau début de parcours. Hein, Anaïs Chevalier-Boucher, faut préciser.
Ah bah oui.
Qui avait fait un beau parcours puisqu'elle avait ramassé
deux médailles
dans la semaine.
Une en argent sur le sprint.
Vous permettez qu'on parle des filles après ?
Bon, on va parler
oui,
des
voilà.
filles.
Hein mais ouais. Du coup...
Dans les épreuves mixtes, il y avait le single mix par contre, aussi. Avec Guigonin et Julia
qui arrivera après. Mais ce que je veux dire, sur la première semaine, on est plutôt confiant, on se dit on va tout ramasser, on va tout massacrer, les Norges, on va les envoyer à la cave. Et puis, bah, il y a l'individuel le coup d'après. Et la seule vraie perf, c'est la quatrième place de
Quentin,
qui est déjà sa deuxième.
Qui ramasse des médailles en chocolat.
C'est déjà sa deuxième quatrième place.
Sur la poursuite, il a fait quatrième aussi.
Et puis, on se dit, bon, bah, l'individuel, après... alors, peut-être qu'il y a eu un choix tactique contestable.
Donc, l'individuel pour l'high grade.
Hein ?
L'individuel. Les skis
alors, les skis, il y avait un problème de skis, ils n'étaient pas aussi performants que la semaine d'avant. Et puis surtout, le fait de mettre Fabien Claude, qui est complètement passé au travers, il y a eu plus de 3 minutes de retard. Alors que sur le coup, moi, j'aurais plutôt mis Antonin Guigonna.
Mais parce que Fabien Claude est passé un peu à travers. C'est
de, complètement. Hein. Complètement. Et du coup, Antonin Guigonna qui se vengera sur le single mix.
Magnifique. En duo avec Julia Simon qui met une accélération dans la côte pour larguer Ekoff.
Ah, mais c'est incroyable parce qu'en face, c'était quand même Thierry Lecoff et Johannes Bö qui sont les deux leaders du classement
logiquement,
général.
Sur le papier, c'était la médaille d'or quasi assurée.
Mais c'est ça, sur le papier, c'est ça. Et surtout que nous, Guigonna. Il est bon, hein. Il est quand même derrière. Julia Simon, c'est pareil cette année, elle est derrière par rapport à Guigonna.
Bon, c'était le 15e et la 13e du général, quoi.
C'est ça.
Les deux premiers.
C'est ça. Il nous réalise une course, mais sensationnelle, avec que 5 balles de pioche et tout, contre 9 pour les Norvégiens. Ils ont fait une course, une très bonne course, et réalisent un magnifique dernier tour de Julia Simon.
Ultra rapide aussi sur son tir debout. Hein. C'est toujours l'angoisse qu'elle a, Julia Simon. Alors, après, elle aura vécu vraiment des championnats du monde très variables en demi-teinte, avec des super perfs comme le titre de champion du monde en single mixte, et puis des grosses catas à faire des 5 fautes sur le relais. Ouais. Du coup, c'était un peu catastrophique, mais du coup, ils seront là tous les deux au bon moment et ils feront une médaille qui nous fait plaisir dans le sens où
c'est la médaille d'or.
On n'aurait pas parié sur celle-là. C'est la seule médaille d'or et seules médailles d'or, pardon.
On avait que Jacqueline.
Mais c'est surtout qu'on n'aurait pas du tout parié sur celle-là.
Exactement.
Bon, et puis la suite des mondiaux, ça a été tout pour l'high-grade, hein, l'individuel et la master.
L'high-grade qui a fait un début de mondial...
timide.
Assez timide. Et,
dans l'ombre.
Dans l'ombre, et il fait, je crois, 7 et 11e, un truc comme ça. Et là, par contre, deuxième semaine, il a tout mangé. Sur le tir, il a tout raflé. Sur les skis, il était présent. Et comme on l'a vu sur la Coupe du Monde cette année, il gagne tranquillement. Ouais.
Mastart qui aura d'un côté vu Emilien Jacquelin complètement craqué, raté 5 balles sur le deuxième tir couché. Un problème technique, on lui a demandé de faire des clics, il les a fait et il était hors cadre. Du coup, il terminera avec, je crois que c'est 7 minutes de retard.
Oui,
enfin, un truc.
Dernier.
Mais déçu, alors que franchement, lui, il y croyait.
Ah bah oui, parce qu'il fait, sinon il fait 15 sur 15, hein, hormis ce
oui,
tir.
Oui, et puis surtout incroyable. Après son premier tir, il est à 5 sur 5, il est en tête, enfin il est dans les premiers.
C'est ça.
Et il va sortir complètement de sa course. Et heureusement pour les Français, le roi du chocolat, celui qui aura pris 4 médailles en chocolat, on n'en peut plus et on a même eu très peur qu'il en prenne une 5e.
Et qu'il fasse une crise de foie surtout.
On a eu peur la crise de foie. Quentin Fillon-Maillet arrache une 3e place. Il est battu au sprint par... qui est-ce qui finit deuxième?
C'est Dalleux.
C'est Dalleux,
je crois que c'est Dalleux et tout. Non, c'est ça, c'est Dalleux.
Et du coup...
Mondiaux
sauvés.
C'est que c'est Fak et les sœurs qui ressortent du dernier tir, deuxième et troisième.
Oui, mais pas le niveau sur
les
skis.
Et Dalleux et Fillon-Maillet qui sont juste derrière, je crois, 10 secondes à la sortie du pas de tir et qui, sur les skis, ils se font manger les sœurs et Fak. Et puis après, Dalleux va un peu plus vite que Fillon-Maillet, donc il aurait pu chercher une deuxième place.
Et surtout, on entend, on voit Siegfried Mazé, le coach de tir de la Norvège, en train de sauter dans tous les sens auprès des officiels, qui se plaint d'une faute qui a été commise à l'encontre de Tarjei Bø. Puisque c'est un Ukrainien qui a pris sa place. Résultat, le pauvre Tarjei Bø, il est obligé de faire 20 mètres dans l'autre sens. Il perd
10 secondes,
10, 15, 20 secondes. Et on a eu peur tout le temps parce que au niveau des commentateurs, ils commencent à nous annoncer que il pourrait y avoir enquête. Et d'ailleurs, ça a pris un peu de temps. Ça a pris bonnes minutes après l'arrivée. Et on était là, mais pourvu que le pauvre, parce que du coup, il finit à 23 secondes de
22, je crois.
Un truc comme ça de Quentin Fillon-Maillet. Et on était là en train de se dire, pourvu qu'il lui colle pas 25 secondes de réparation. Parce que là, c'était encore une quatrième place pour Quentin Fillon-Maillet, ce qui aurait été terrible.
Ah ouais, là, ça aurait été terrible.
Heureusement,
tout s'est bien passé.
Et après, on a eu l'explication que c'était pas tellement pour essayer de choper une médaille comme ça à l'arrache, un peu foireuse, que Siegfried Mazet avait porté réclamation, mais c'est surtout pour le classement de la Coupe du Monde. Pour lui faire regagner des places. Alors, j'ai pas eu l'arbitrage de tout ça, mais...
Bon, de toute façon, il est quand même assez loin au classement de la Coupe du Monde. Enfin, il est cinquième. Il serait peut-être repassé devant Fillon-Maillet, c'est tout.
Mais après, si c'est pour la Coupe du Monde, si c'est pour le Globe, on sait que ça ne sera pas l'un des deux. Mais au moins, on a eu ce soulagement pour Quentin Fillon-Maillet, qui méritait vraiment une médaille.
Allez, on passe aux dames. Cette année, Ekoff incroyable, 8 victoires déjà. Alors, pour le Globe, rien n'est fait. Mais en tous les cas, collection de victoires. Encore 7 courses avant la fin de la saison, déjà 8 victoires. L'année dernière, c'était 7 et c'était déjà impressionnant. Mais là,
Thierry
Lecoff, elle rafle tout.
Mais c'est ça. Alors, au début d'année, on voyait Heuberg.
C'est ça.
Phénoménal. Et on la voyait du coup continuer et aller gagner. Mais finalement, Ekoff est revenu avec des tirs très bons tirs. Et puis d'une vitesse, c'est la Johannes Bö féminine. Et c'est incroyable. Elle rafle tout sur son passage et tout. Et c'est incroyable.
Et puis on lui attendait une adversaire norvégienne, Marte Olsbourg en Isoland.
Elle n'est pas larguée, attention. Au classement, il n'y a même pas 44 points.
Oui,
et Heuberg est intercalé entre les deux.
Ça se joue une bataille à trois.
Une bataille à trois. Parce que quand Ekoff ne gagne pas, par contre, elle finit très loin.
Elle finit dans les trous parce qu'elle rate complètement ses tirs.
Donc, c'est pas la prime à la régularité pour elle. Hein. Donc, comme l'année dernière, 7 victoires et elle se fait coiffer par Vireur à deux courses de la fin. Donc, attention à Vireur. Pour Ekoff, c'est peut-être la peinture du biathlon.
Hein. Oula.
on en parlera tout à l'heure. Mais oui, après, il ne faut pas oublier que comme on enlève 4 courses, je pense que ça le fera quand même pour tirer Ekoff. Oui.
On va voir.
Parce que Reuseland est moins bon et moins forte en ce moment.
Ce que j'allais dire, c'est que Reuseland, on l'a vu au Mondiaux, elle fait un très bon début de saison. Elle était attendue au Mondiaux. Et au Mondiaux, elle passe complètement à travers.
Elle fait
des médailles d'or, mais en relais. En relais à chaque fois, mixte et puis féminin. Mais sinon, elle n'est pas là du tout. Hein. On l'a vu sur une course où elle se fait manger par une autre Norvégienne qui court de mieux en mieux, c'est Ingrid Tandrevold. Sur la dernière Mastart où elle finit... Non, c'est sur la dernière Mastart où elle finit quatrième
au sprint.
Elle se fait dépasser par Thierry Lecoff.
Elle est avec Tandrevold, elle se fait lâcher par Tandrevold et Ekoff revient comme une balle. Et elle se fait battre au sprint par Ekoff. C'est très dur pour Marte Olsbourg-Iseland. Parce qu'elle a mérité, elle fait quand même une bonne saison.
Schwilzen, hein, elle avait bien commencé, poursuite Mastart. Mais après, elle est un peu sortie des radars. Tout comme Dorothea Vireur, qui gagne la première course de la saison.
Ouais, c'est ça.
Lundi, va Kontiolahti.
Elle fait un podium sur le sprint à Oberhof. Mais sinon, après...
Décevant pour la triple championne du monde, double tenante du gros globe.
Bah c'est ça, sur les skis, elle est plus là. Elle est plus là, et forcément, avec un tir
Et la course
peu
qu'elle
moins...
peut gagner au Mondiaux, on a vu qu'elle fout 5 balles ou 4 balles à côté, faire 4 tours.
C'est sur l'individuel.
Ouais.
Moins précise, elle qui est ultra précise, elle est un
d'habitude,
peu moins précise.
Elle a craqué, là.
Un peu moins bon sur les skis, un peu moins bon sur le tir, bah résultat, après, Ekoff, qui, elle... Meilleur sur le tir, meilleur sur les skis, résultat.
Par contre, ces mondiaux ont vu l'éclosion d'une Autrichienne magnifique, Lisa Teresa
Hauser. Qui fait une saison déjà très bonne.
T'es amoureux d'elle, toi.
Une belle saison. J'adore. Je les aime toutes. Non, moi, c'est Marketa Davidova, dont je suis totalement fan, d'ailleurs. Je suis ultra content qu'elle ait arraché une magnifique médaille d'or.
Deux victoires cette année pour Hauser, donc une victoire en Coupe du Monde et un titre mondial, là aussi.
Et une perf mondiale absolument énorme.
Et des médailles.
plein de médailles. Mm. Les meilleurs perfs. D'ailleurs, c'était jamais arrivé qu'une Autrichienne enlève un titre de championne du monde. Et du coup, grâce à Lisa Teresa Hauser, c'est le coup. C'est quelqu'un qui tire très très bien.
Comme Simon Eder, hein, c'est la même école. Hein.
Voilà. Mais qui est beaucoup plus, qui a trouvé une vitesse en ski.
Ah oui, elle est en ski. Ouais. Elle est très grande en soi, hein, chez les femmes. Et elle est forte sur les skis, sur le tir. Elle est très très solide. Résultat, c'est un peu, elle fait des bons résultats et elle est quatrième du général.
C'est sa meilleure perf. Elle avait jamais fait un top 10. Hein,
ouais, bah,
la saison n'est pas terminée. Elle peut encore grimper. Hein.
Ah bah elle peut aller chercher peut-être Öberg et Roseland si jamais elles sont un peu si elles
font
la courgette, si elles, il y a craquage, mais elles semblent quand même assez, elles semblent un peu loin quand même. Donc elle réalise une très bonne saison et je pense qu'elle peut aller encore chercher des victoires là à Nové Mesto et à Östersund.
Ouais, et ça sera en nocturne d'ailleurs en Nové Mesto, hein. Comme d'habitude, on a des courses à 17h30. Hein. Ah bon, en tous les cas, le
faire des belles images.
Mais non, mais du coup, Matt, il est content parce que comme ça, il est sûr d'être rentré pour regarder les courses.
Ça, c'est certain.
Ah, c'est toi qui les as appelés pour.
Ouais, j'ai tout programmé. Hein, pour il y aura deux étapes à Nové Mesto et après, on sera pour les finales à Östersund.
Östersund en Suède.
Ouais, puisque les Norvégiens, ben, ils n'accueillent plus d'épreuves, hein, ils ne veulent plus personne sur leur sol. Donc, Holmen Common.
C'est d'ailleurs Östersund qui était remplacé en début de saison par Kontiolahti. Et là, c'est Östersund qui remplace Oslo.
Bien,
bon, les Françaises sur la Coupe du Monde. Bon, on a eu quand même deux victoires pour Julia Simon. Hein.
Ouais, je suis un peu surprise hein, d'ailleurs.
Troisième victoire en carrière qui devient maintenant la Française la plus. Qui a le plus de victoires en Coupe du Monde parmi celles qui courent actuellement. Donc.
Julia Simon, c'est un peu une saison en demi-teinte. Hein.
Tout ou rien.
C'est un peu ça. C'est un peu, c'est un peu les Françaises d'ailleurs cette année. Hein. Hormis Anne Chevalier qui est un peu plus régulière, mais qui parfois des grosses craquantes.
Exact.
C'est ça. Et Julia Simon, on attendait un peu par rapport à l'année dernière, une saison où il y a plus de régularité et tout. Alors après, en maturité, finalement.
Plus de victoires, mais moins de places d'honneur, ce qui fait
qu'elle est
13e au général, ça fait un peu loin.
Elle ne peut pas viser, la seule Française qui peut viser quelque chose au gros globe, c'est Anaïs Chevalier-Boucher.
Elle est 7e.
Ça risque quand même d'être compliqué, mais de toute façon, elle est là pour se battre. Mais pour Julia Simon, c'est l'irré. Même si tu enlèves des courses, elle n'a aucune chance d'être
de
figurer. Il faut qu'elle arrive à prendre des courses et on l'a vu un petit peu passer avec des gros travers, ce que je disais, au championnat du monde. Donc il faut qu'elle retrouve de la confiance. Sur la fin des championnats du monde, elle annonçait avoir trouvé une explication, en espérant que ça soit le cas et puis qu'elle puisse travailler là-dessus sur son tir, hein, puisqu'on sait qu'en ski, elle est ultra rapide.
Single mixte. Hein.
Par contre, elle a quand même la chance, elle est toujours en tête du petit globe de la Mastart avec ses deux victoires sans Mastart.
Elle peut aller chercher le petit globe de la Mastart, ce qui serait énorme.
Ça serait déjà un gros bon lot de consolation, on va dire ça comme ça.
J'ai beaucoup d'espoir pour l'année prochaine.
Je vous rappelle que depuis Marie Dorin, Haber, il n'y a aucune Française qui a ramassé de globe. Ni de titre mondial. Mais la plus grosse déception pour moi étant Justine Brezaz-Boucher.
Dans les choux, hein. Complètement, au tir inexistante.
C'est ce qu'on en discutait l'autre fois avec Charles, je crois, et c'est ce qu'on se disait, c'était une fille qui en 2016, était permis, elle avait ramassé des victoires et tout ça.
Elle était
6e au général à la fin.
Il y a 4 ans, elle était au top. Depuis, elle n'arrête pas de.
Elle a refait en 2018, je vois.
Alors, elle a refait des perfs intéressantes, mais du coup, moi je trouve qu'elle, depuis 2018, elle ne progresse pas.
C'est ça. J'ai l'impression qu'elle régresse. Exactement. Sur les skis, elle est quand même plutôt là en soi, mais sur le tir, c'est
moins incroyable. Que l'année dernière où elle était la plus rapide.
Ouais, cette année, elle est un peu moins rapide.
C'est ça.
Mais là, même si elle est toujours un peu présente, mais c'est surtout sur le tir, c'est quand même incroyable. Hein.
J'espère qu'elle trouvera quelque chose, parce que sinon elle risque de passer à côté de sa carrière, ça serait vraiment dommage.
C'est dommage, alors, elle a de la chance, elle est encore jeune, hein, mais faut pas trop tarder. Hein.
Alors Julia, ok, ça pousse, 2 victoires en Coupe du Monde, c'est très bien. Une autre qui sauve sa saison, bah, c'est Anaïs Chevalier, qui fait des bons mondiaux.
Ah, qui fait des mondiaux, très bons mondiaux.
Elle avait quoi, ramassé une deuxième place,
troisième de la poursuite.
Deuxième sur le sprint et troisième sur la
poursuite. Et en Coupe du Monde, elle avait fait une deuxième place après son retour.
Elle a fait une troisième place.
Troisième, pardon.
L'individuel, en Tols, et puis c'est tout. Exactement. Oui. Ah, si, une deuxième place aussi en Controllarty.
Voilà, dès son retour, c'est ce qui me semble.
4 podiums, pas de victoire, mais des médailles en tout cas.
Ouais, c'est ça.
Deux médailles, c'est ce qu'on attend d'un champion.
Et puis,
une philosophie, quoi, parce que c'est comme je l'appelle maman. Même philosophie que Marie Dorin quand elle avait ramassé ses 6 médailles en 2016 au championnat du monde, c'est-à-dire qu'elle revient, elle pourrait rester avec sa fille chez elle. Elle a décidé de continuer sa carrière, donc elle ne veut pas le faire pour rien. C'est quelqu'un qui est ultra motivé, ultra sérieuse dans son analyse des choses. Et c'est pour ça qu'elle fait des perfs. Et c'est pour ça qu'en championnat du monde, elle a fait 2e et 3e. Après, il y a eu un petit couac. Elle était moins en forme sur la deuxième semaine.
On va dire qu'elle note les rendez-vous importants, elle.
Et ben, puis elle est, oui, voilà. Ouais, puis elle est là. Elle n'est pas là pour rien.
On a une retour aussi. Et on sent quand même que ça reste la meilleure française, la plus régulière. Elle est quand même assez vite sur les skis. Voilà, on sent que c'est la leaduse de l'équipe de France.
Bah pour moi, c'est ça. Cette année, alors moi, je misais beaucoup, c'était le retour de la leader.
C'est ça.
Après, dernière française, Anaïs
Bescon. On sent que c'est plus sur la fin.
On l'a déjà dit l'année dernière. Non, mais moi, j'ai envie de revenir sur les performances de Chloé Chevalier, parce qu'on a écarté Célia Aymonier, qui l'année dernière arrive quand même à mettre 250 points en Coupe du Monde.
Oui,
Chloé Chevalier est loin de ce total.
Alors, ce que j'allais dire, donc, Célia Aymonier a pris sa retraite.
Retraite attendue.
Oui, non, mais en fait, retraite
oui, non,
trop jeune. Mais après, en fait, mentalement, elle n'arrivait pas à... Parce que c'est quelqu'un qui skie très vite, mais qui faisait toujours des erreurs improbables. Et puis voilà, donc du coup, elle en a eu marre, ça lui mangeait le cerveau. Elle a pris sa retraite, donc maintenant, c'est Chloé Chevalier, quelqu'un qui tire très très bien. Moi, j'aime bien les perfs qu'elle fait. Elle tire vraiment bien.
Mais elle avance pas bien vite.
Mais malheureusement, elle
Mais ça s'apprend. Ne va pas m'enterrer Chloé Chevalier tout de suite, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui progresse énormément. Hein. L'année dernière, elle était en IBU Cup.
Elle avait fait quelques courses, je crois, quand même.
Elle fait de temps en temps quelques courses, comme aussi Caroline Colombo, qui est quelqu'un qui progresse.
Son rythme.
On va pas les enterrer.
Mais Caroline Colombo, quand même, cette année, c'est un peu plus compliqué.
On l'a annoncé très bonne tireuse l'année dernière. Ça s'était prouvé sur le pas de tir. Cette année, elle fait pas des 10 sur 10 et des 20
non,
sur 20.
Non, Caroline. Bah, d'ailleurs, Caroline Colombo, qui sera pas aux étapes de Novemesto, qui sera remplacée par le Jean Monod, je crois.
Ah oui, d'accord.
En plus, Caroline Colombo, voilà. Mais Chloé Chevalier.
Moi, Chloé Chevalier, je suis quelqu'un en qui je crois vraiment.
Et sur les relais, elle a fait 2-3, elle a fait des bonnes perfs.
Championnat du monde, elle fait une belle perf. Elle fait qu'une erreur. Bon, après, on est d'accord, il y a un petit manque de vitesse, mais ça s'apprend.
Après, sur le championnat du monde, c'est surtout sur les skis que les Français étaient aussi... Enfin, il y avait un problème au niveau des skis, surtout.
Ce qu'on dit, la deuxième semaine, et c'est pour ça qu'en relais, les Français sont passés complètement au travers et finissent huitième, elles font que 5 pioches. Hein.
C'est ça, elles font que 5 pioches, elles font quasiment les meilleures...
C'est-à-dire que là, il n'y avait pas le physique, et c'est ce que nous a expliqué Anaïs Chevalier après la course, c'est que physiquement, il y avait un truc, elle n'y était plus physiquement, donc...
Moi, je pense qu'il y avait aussi un truc sur le fartage, hein, je pense. Hein, parce que quand même,
Je pense qu'il y a d'une part le fartage qui ne collait pas. Bah après, ça arrive, hein, les assassiner, les techniciens. Mais c'est surtout, en plus, physiquement, toutes les filles ont eu du mal.
Bah, les Chevaliers, c'était une grosse première semaine. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu le contre-coup des podiums. Julia Simon, Justine Brezaz, qui sont un peu moins fortes peut-être l'année dernière et qui, forcément, en plus, avec un problème de fartage, si tu vas un peu moins vite. Et que le Chevalier, qui est quand même moins vite que... non, c'était même pas Justine Brezaz, elle n'était pas sur le relais.
C'était Anaïs Bescon, qui n'est pas la plus rapide en ce moment.
Donc, effectivement.
Et c'est ça qui est terrible. Quand on a vu cette course, on voit 8e, on se dit, mais c'est pas possible. Il y en a une qui est passée au travers, qui a fait toutes les fautes.
Et
non.
Pourtant, non.
Bon, pour conclure, votre favorite pour le gros globe
Thierry Lecoff. Sans problème.
Thierry Lecoff aussi pour moi. Un petit info, retour de l'étape du Grand Bornand pour 2 ans. Hein, donc, ça sera en décembre de les deux prochaines. 2021-2022, 2022-2023. C'est confirmé pour les 2 prochaines saisons.
Il me semblait qu'il y avait 2024-2025 aussi.
Non,
T'es sûr ?
2000, non, pas encore.
On verra, c'est peut-être pas encore décidé.
Par contre, nouvelles, étapes, qui arrivent, nouvelles étapes qui arrivent l'année prochaine. Biélorussie, on va courir à Minsk, Roubichy et également en Estonie à Otepae.
C'est bien pour les Biélorusses parce que cette année, ils font quand même des petits résultats, les Biélorusses.
Ouais, hein. Et voilà. En 2023-2024, une nouvelle étape arrive, c'est l'Enzeride en Suisse et retour des tournées américaines Canmore Soldier Hollow. Voilà.
D'accord, bah ouais. Écoute, ça sera intéressant. Moi, j'aime moins la tournée nord-américaine.
Ouais, c'est, ouais c'est il plus... fait très froid hein, là-bas. Hein.
Bah, ouais, puis même, c'est un peu décalé hors hein, saison.
On est quand même aux antipodes.
On traverse à l'autre bout de la planète.
Bon. Et puis, tout le monde ne se déplace pas.
C'est ouais, ça, c'est ça aussi. Ce que j'allais te dire.
Mais bon, c'est tous les 4 ans. Donc,
bon, bon, ça va.
Mais bon, retour du Grand Bornand, bonne nouvelle. Hein. On aura peut-être un ou deux envoyés spéciaux là-bas, avec un peu de chance.
Ah, si on a de la chance. Ah, ça me prête à plaisir.
Je sais que Charles et Lucien sont motivés pour y aller s'ils peuvent.
Ah, si on peut, je ne dirais pas non.
Allez, on passe à l'alpin, il nous reste un quart d'heure. Et ce qui nous intéresse en ski alpin, eh ben, c'est le gros globe, la bataille actuellement entre Alexis Pinturo et Marco Odermatt. 210 points d'avance pour Pintu. Ça semble bon. Ça semble bon, il va rester quand même, on a dit, hein, des épreuves de vitesse la semaine prochaine. Où bah, l'avantage sera peut-être pour le Suisse derrière des épreuves techniques avant les finales de
l'Enzeride.
Là où on va faire du biathlon dans 2 ans, c'est la même station. Donc, Pintu, ça y est, il va l'avoir ce gros globe. Hein, l'année dernière, on sait ce qui s'est passé avec le Covid. Il n'a pas pu disputer les épreuves.
Technique de fin de course qui l'aurait avantagé.
Exactement.
Je pense qu'il sera là pour le gros globe parce qu'il sait se placer. Il a compris que... Parce que par exemple...
Il prend moins de risques.
Prend moins de risques. Il essaye surtout de finir les courses et c'est ce qui est important.
On l'a vu ce week-end à Bansko.
Il fait 3 et 4. Il fait 4e le premier et 3e après.
Il perd 15 points sur Odermatt.
Géant.
Et c'est que 15 points.
Ouais, c'est que 15 points. Donc là, il va mettre le frein à main, je pense, et essayer d'être à l'arrivée de ses courses.
Et puis, il faut compter sur les résultats d'autres athlètes. Comme par exemple, en descente, ça reste Beat Feuys, le meilleur descendeur.
Il y a Krischmeier.
Donc, ils vont prendre les gros points des grosses places, comme peut le faire, et on en parlera juste après, Mathieu Fèvre sur le géant, qui est en train de faire une fin de saison de folie. Et c'est là que ça va servir à Pimpin qui prendra à chaque fois des points. Et pour moi, c'est là-dessus qu'il va gagner. Il ne fera pas forcément de podium, mais il sera toujours placé entre 5 et 10.
Bah, il y a quand même des étapes. Il y a le slalom géant à Kranjska Gora et tout, le slalom. Donc, il y a des étapes où il y a quand même des épreuves où il pourra être là. Il pourra peut-être une victoire, on ne sait jamais.
Moi, je le vois sur un podium, voire dans les 5 premiers. Puisque de toute façon, c'est des points. Tu prends toujours des points et il sera toujours là. Et à un moment donné, c'est peut-être Clément Noël qui va gagner sur un slalom pour prendre les gros points.
Il faut qu'il joue placé et pas gagnant parce que sinon, il risque de partir à la faute et là de faire une croix encore sur ce que les Français attendent
depuis
Luc Alphand. Hein, 24 ans hein, qu'un Français n'a pas soulevé le gros globe.
Mais
il est bien parti.
Il va le faire.
On reste sur les disciplines techniques et vraiment un coureur qui nous impressionne tous en ce moment, c'est Mathieu Fèvre. Hein,
Mathieu Fèvre,
on l'a dit, sur ses 4 dernières sorties, il en claque 3 et il est 3e.
Podium. Ouais. Donc c'est il réalise là avec les 2 courses des championnats du monde plus là les deux derniers géants, il réalise une vraie grosse fin de saison.
Ouais.
Ben Mathieu Fèvre, en fait, on l'attendait pas du tout. Hein.
Non,
il avait fait aucune
prestation. On l'attendait Pinturo.
Mathieu Fèvre, c'est un Niçois et il était le porte-étendard de la candidature de Nice. C'était quoi au moment de Turin en 2010, je crois, où Nice aussi s'était positionné. Ils l'ont pas eu les Jeux Olympiques et Mathieu Fèvre était le porte-étendard de la candidature niçoise. Donc peut-être que ça lui a pesé, qu'il a mis un peu de temps dans sa carrière parce qu'il était tout jeune à cette époque-là. Et du coup là, il s'est révélé et puis au championnat du monde, on va en reparler, mais il se révèle, c'est magique quoi.
Ça fait très plaisir pour la France.
Ah bah oui, complètement. Et du coup, bah, c'est des gars comme Mathieu Fèvre ou Clément Noël pour le slalom.
Clément Noël décevant cette année.
Bah,
il
fait une victoire. Il est encore jeune. Faut pas non plus trop lui en demander. Il a quand même. On sait qu'il est bon. Je pense qu'il le sait lui-même qu'il est bon, qu'il a potentiellement, il peut aller chercher des victoires. Faut pas lui mettre trop de pression.
Ce que je vois, c'est que c'est des gars qui vont permettre à Pinturo, sur cette fin de saison, d'aller chercher le gros globe.
Ouais, mais encore, moi je pense que c'est des coureurs, comme Pinturo d'ailleurs, hein, qui savent pas ce qu'il y a à l'économie. Et c'est pour ça qu'ils sortent souvent en deuxième manche, parce que ça prend trop de risques.
Si on prend les championnats du monde, oui, puisqu'il sort alors qu'on annonce que sur le géant, c'est lui qui va gagner. Bon, à la finale, c'est Fèvre parce qu'il sort, en début de parcours. Mais
au bout de
sur une épreuve en longueur comme le Globe de Cristal, là, t'inquiète, je te l'annonce.
Il a fait quand même 3 victoires en cette
Pinturo, année. Il sortira pas une seule fois des étapes qui restent.
Non, il fera tout pour rester.
Je te l'annonce, toutes les étapes, c'est qu'il va rester sur, il va aller à chaque fois au bout des épreuves. Et il prendra moins de risques.
C'est ce qu'il faut s'il veut.
Sur le globe, c'est le compromis. Voilà, faut arriver en bas. Tu veux gagner une course. Bien sûr que tu dois tout donner, prendre un maximum de risques et souvent trop. Ce qu'ont souvent fait les Français. Et ce que faisait avant Pinturo. Souvent, en mettant trop d'énergie, il sortait et puis.
Lui-même, de toute façon, avec Hirscher, forcément, de toute façon,
t'étais obligé.
Le classement général, c'était quasiment impossible. Donc, fallait aller chercher les victoires et forcément, bah là, tu donnais et tu prenais tous les risques.
Mais là, du coup, sur un cas comme ça, oui, il a pas besoin, il mérite d'aller chercher son gros globe de cristal. Là, il va plus sortir. Hein. Il a aucun intérêt à sortir. Il a juste à prendre des points à chaque course.
Sachant que les victoires, il en a déjà 4 cette année, une épreuve sur les épreuves parallèles et 3 sur Slalom géant. Donc il n'a pas non plus, c'est pas comme s'il n'avait pas gagné cette année.
Bon alors, pour le globe, Pinturo ou Odermatt ?
Pinturo.
Allez, Pinturo aussi. Les révélations de la saison, ou en tous les cas, les confirmations. Le gros globe sera pour Lara Hutt, a priori. Hein.
Chez les femmes,
d'accord.
Hein, après,
annonce tu changes de catégorie.
Oui, bah c'est ça. Pareil, hein, elle fait un peu comme Mathieu Fèvre, elle était mieux placée que Mathieu Fèvre, mais elle réalise des très bonnes fins de saison.
Super week-end,
les deux victoires en descente. Au championnat du monde, elle gagne le Super G et le Slalom géant, elle est partout et puis
Chiffrine est un peu moins là.
Gros globe, bah oui. Bon, en plus, elle court pas réellement les mêmes épreuves. Mêmes
objets. Hein. Oui.
Il y en a une qui est plutôt sur les épreuves techniques et elle de vitesse.
Et Petra Vlhova qui doit être déçue, c'est pas fini, mais qui doit être déçue.
Elle était en tête,
est quand même annoncée comme une grosse favorite et tout, et finalement elle gagne rien au championnat
du monde. Dans l'ombre de Chiffrine, alors cette année, si elle doit terminer derrière Lara Hutt, elle l'aura mauvaise.
Oui, parce que derrière ça reste Chiffrine, alors que c'est que Gulbaramida devant. Là, donc, elle peut l'avoir très mauvaise.
Katharina Linsberger, est-ce que c'est la grande slalomeuse de demain ? Parce qu'on vient de parler de Vlhova, mais elle a quand même des atouts aussi. Hein. Championne du monde.
Championne du monde du slalom.
Impressionnante. En parallèle.
En parallèle avec Marta Bassino. Elle est très très forte en ce moment. Et c'est une future grande skieuse, surtout sur les slaloms, sur les épreuves techniques.
Ouais. En géant, il faudra quand même qu'elle se méfie de Bassino parce qu'elle aussi, elle claque victoire sur victoire hein, cette année. Mm. Là aussi, c'est la relève. Hein.
C'est ça, c'est la relève. Hein. Donc, elle a quel âge ? Elle est assez jeune, elle a que 23 ans.
Les Italiennes, c'est pas le même niveau que la France parce que Sofia Goggia en descente, Marta Bassino, Brignone, il y a tout le monde. Hein. Là vraiment, elles font une super saison, les Italiennes.
Hein. Si les Italiennes étaient françaises. On serait bien content.
Ah ben tu m'étonnes. Si, mais bon, après, faut bien voir que malheureusement la France n'a que Tessa Worley qui a fait des prestations quand même cette saison.
Une victoire cette année. Elle a fait quand même une médaille sur les championnats du monde en épreuve parallèle.
Ouais.
Donc ça reste quand même ça reste sympathique, ouais. Mais c'est vrai que les Françaises...
Elle est toute seule.
Elle est malheureusement toute seule.
Et puis elle a déjà marqué l'histoire, elle a déjà fait l'histoire. Elle double championne du monde de géant.
C'est ça, elle vieillit.
Peinturo aimerait bien avoir deux médailles d'or autour du cou. Ah bah. Je peux vous le dire. Là, il va falloir encore attendre deux ans pour qu'il en ait une.
Il a que 29 ans, donc il est encore...
Il lui reste les Jeux Olympiques aussi l'année prochaine. Ouais. Bah, ce sera l'objectif de sa carrière.
Ah bah là, je pense que oui. On va pratiquement le dire, il est à l'aube de sa carrière. Enfin, il est vraiment au sommet de ses résultats.
On l'annonce comme le meilleur skieur actuel. Hein.
S'il est en tête du classement général, c'est que c'est un peu le cas. Donc effectivement, je pense que là, il doit se avoir en tête et il doit pouvoir le faire, c'est aller chercher des médailles olympiques.
Il lui reste beaucoup
surtout les titres. Commence à vieillir un petit peu, mais il a encore un petit peu de marge.
Il n'a qu'un titre mondial, celui du combiné il y a deux ans.
Hein. C'est ça. Et il n'est pas passé loin du combiné cette année.
Marco Schwartz. Oui.
Dommage.
Oui, du coup, pour les Françaises, on va plutôt parier sur les disciplines particulières, comme le ski de bosse avec Perrine Laffont
pour choper
des médailles. Hein. Mais pour l'instant...
pour un quatrième globe.
Ouais, quatrième gros globe. Impressionnante. Hein. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Elle rafle quasiment tout. Elle est jeune.
Championne olympique, championne du monde. Là, les mondiaux s'ouvrent à Almaty au Kazakhstan dans 8 jours. Donc, 2 titres à aller chercher, hein, en bosse et en bosse parallèle.
On va dire que c'est acté.
Ben Cavé est aussi médaillable. On espère qu'il va ramener quelque chose. Et puis, on a aussi le ski cross.
C'est ce que j'allais te proposer, ski cross.
On a fait... les mondiaux ont eu lieu à Idrefjäll, en Suède. François Place, vice-champion du monde.
Vice-champion du monde, qui était champion du monde.
Qu'on attendait plutôt les frères Middle et puis le champion olympique.
Et oui, le fameux champion olympique.
Le champion olympique. Attends, je mets mes lunettes, je vais peut-être le retrouver.
Tu l'as marqué où?
Le champion olympique.
On vous laisse deviner. Ce sera la question pour vous, les auditeurs.
Vous recherchez et vous nous direz.
Et le bronze pour Alizé Baron, donc ça.
Donc ça fait des belles médailles. C'est des belles médailles, c'est important.
Sur le ski cross, on est là. Hein, le champion du monde, c'est le Suisse Alex Fiva.
Alex Fiva, d'ailleurs, que Place avait battu en demi-finale, Fiva, donc il n'est pas passé loin.
Donc c'est...
Surtout en plus des belles tactiques, parce qu'enfin, il a toujours quasiment suivi la même tactique en partant derrière sur les tout, et puis revenant à chaque fois sur la fin.
C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, c'est un truc qu'on ne voyait pas trop, mais ça dépend vraiment des terrains, et à Idrefjäll... en fait, il fallait pas partir premier parce que tu te faisais dépasser sur les 150 derniers mètres à l'aspiration.
Et c'est ce qui a permis à l'Anglais surprise qui arrivait en finale. Bon, qui fait pas de médaille, mais à chaque fois, il était derrière. Sur les bosses à la fin et tout, sur les enchaînements et tout.
C'est le petit côté vélo du ski cross.
Exactement.
Et du coup, sur tous les sports, on a quand même moyen de ramasser des médailles un petit peu dans toutes les catégories en France.
Les JO, c'est l'année prochaine, ça sera à Pékin.
C'est ça.
Donc ça va approcher vite.
Et on peut espérer de belles médailles.
Hormis sur les disciplines de ski nordique, saut à ski...
Alors, ski nordique, oui, alors le combiné nordique, d'accord. Par contre, sur le ski nordique...
Depuis la retraite de l'ami Chapu, on n'a plus rien sur
le combiné. On met de côté dès qu'il faut sauter. Mais... Si tu prends le ski nordique, juste le ski de fond, on a des Chanava,
Alors, c'est les mondiaux en ce moment, hein, à Oberstdorf. On va voir s'il y a une médaille, mais la Norvège a l'air intouchable.
Et la Russie aussi, avec Bolshunov.
Exactement.
Oui, le bastonneur.
C'est ça,
Bolshunov. qui a pris une suspension pour avoir violemment agressé un pauvre Finlandais. Un petit peu de relent de l'indépendance de la Finlande, peut-être. puis il y a toujours, surtout le Norvégien, Klebe. Hein. Mais attention, les Français Jouve ou Chanava nous ont prouvé que
ça peut jouer.
Ils pouvaient remplacer Magnifica ou autre Jean-Marc.
Ils ont un an pour se préparer pour les JO.
ça sera intéressant.
Ça sera en Chine, à Pékin. Alors je sais pas comment on va. comment on peut skier là-bas.
On va dans les montagnes. Ouais, on va dans les montagnes. Regarde, quand ils ont fait à Turin, il n'y avait pas de neige. Il faut monter dans les montagnes.
Bien sûr,
c'est la zone d'organisation.
Bah, voilà, c'est ça. Non, mais là,
c'est Pékin, il y a la muraille de Chine. Il y a un ski sur la muraille de Chine.
C'est ça.
Oui, ou peut-être au Tibet. Enfin bon, c'est bizarre. Mais bon, maintenant, ou comme la candidature de Nice dont je parlais tout à l'heure. En fait, maintenant, c'est une grosse ville qui se permet d'organiser, puisqu'ils ont les infrastructures et la publicité, par rapport à la notoriété de la ville. Et puis derrière, c'est dans les montagnes environnantes.
Alors, c'est bien dommage, cette attribution des Jeux Olympiques à Pékin. On connaît, à côté de ça, il y avait des candidatures magnifiques, notamment celle d'Almaty au Kazakhstan. Et là, on aurait été dans des territoires vierges. Et ben, si vous voulez regarder les mondiaux de boss... Justement, ça sera là-bas et vous verrez un peu les paysages spectaculaires
et
du Kazakhstan.
Vous verrez peut-être Mathieu qui a décidé de partir en vacances à Almaty.
Si vous le voyez à la caméra.
C'est Vinokourov qui a fait les billets.
Eh bien, cette émission est terminée. On vous dit à la semaine prochaine pour d'autres aventures.
Exactement.
Merci.
Ciao, bye bye.
À bientôt.
Ciao, bye bye. À plus.